12h20 universel, vous écoutez Radio Ndekeluka sur les www.radiondekeluka.org. Il est 13h, nous vous invitons à suivre la grande édition avec Inès Lorngopo. Inès, bonjour.
Bonjour Nina Verdiane, bonjour à toutes et à tous, les titres. La Cour pénale spéciale totalise 3 ans d'activité ce vendredi en Centrafrique, chargée de juger les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en République centrafricaine depuis le 1er janvier 2003. La CPS n'a pas encore tenu une audience. Cette plainte de certains candidats au concours d'entrée à l'INAM, plus de 1000 dossiers ont été déclarés non recevables. Les candidats dénoncent un manque de transparence. Et puis on célèbre ce vendredi la journée mondiale de l'énergie, mais en Centrafrique, l'accès à l'électricité reste un défi. Football championnat aller de la Ligue de Bangui. 2 matchs se jouent aujourd'hui au stade Barthélémy Bouganda, Racing Club du 3e arrondissement contre FC SOS, puis UFCB Olympique Real de Bangui.
Inès, voilà 3 ans aujourd'hui que la Cour pénale spéciale a officiellement lancé ses activités en République centrafricaine.
La création de cette Cour est l'une des recommandations du Forum de Bangui de 2015. C'était dans le but de rendre justice au peuple centrafricain meurtri par les multiples rébellions. La Cour pénale spéciale, selon sa loi organique promulguée en juin 2015, est chargée de juger les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis sur le territoire centrafricain depuis le 1er janvier 2003. La CPS avait officiellement lancé ses activités le 22 octobre 2018. Alors, 3 ans aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait? Jean-Bruno Malaka, porte-parole de la CPS, répond à Jean-Fernand Quina.
Je pense que les 3 années n'ont pas seulement permis à la Cour de s'installer, mais nous avons eu au moins 337 plaintes qui ont été déposées, des plaintes avec constitution de partie civile. Il y a des dossiers qui sont sous enquête, il y a des dossiers au niveau de la chambre d'instruction et des dossiers qui sont bien avancés au niveau du parquet et qui, d'ici au plus tard, à la fin de l'année, comme l'avait dit le président de la Cour et le procureur, on risque d'assister aux premières audiences de la Cour. Donc je ne pourrais pas dire que la Cour pénale spéciale a passé 3 ans sans rien faire ou 3 ans seulement pour s'installer. Mais ces 3 années ont été utilisées par la Cour à bon escient, puisque de nombreux dossiers sont maintenant en instance de jugement.
Dans ce journal également, cette plainte de certains candidats au concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de la magistrature, UNAM.
Plus de 1000 dossiers ont été déclarés non recevables. Les concernés dénoncent un manque de transparence dans le traitement des dossiers de candidature. Francis Clavier-Cala s'est intéressé à ce dossier.
Certificat de nationalité, casier judiciaire, acte de naissance ou diplôme sont des documents jugés faux dans ces dossiers de candidature. Certains candidats dénoncent un manque de transparence dans le traitement des dossiers par la commission des experts. Jules Jidam Betamboli, un des candidats.
Tous les documents que nous avons fournis, ce sont des documents conformes délivrés au niveau des tribunaux. Et à notre grande surprise, lors du traitement de dossiers, ils ont écarté illégalement nos dossiers au motif que les certificats de nationalité qui nous ont été délivrés au niveau des tribunaux ne sont pas des documents conformes. Et il nous a dit que la décision qui a été prise est insusceptible de recours. On considère cet acte-là comme étant un acte discriminatoire.
Pour Lambert Yerimo, directeur général par intérim de l'ENAM, les dossiers rejetés contiennent de faux documents et certaines irrégularités dans les authentifications.
La commission de recrutement des élèves magistrats et greffiers, composée au moins de 23 personnes. Donc c'est bien composé des techniciens. Et alors ces experts, c'est eux qui diront si c'est un faux ou c'est un vrai. Mais comment tu vas faire un faux document pour que tu entres dans une grande école de référence comme l'ENAM? Ce n'est pas possible. Et voilà, c'est pourquoi certains candidats, leurs dossiers ont fait l'objet d'irrécevabilité pour faux et usage de faux.
Au total, 300 dossiers de candidature pour le concours des magistrats et 800 pour les greffiers sont rejetés à cause de faux documents selon les responsables de l'ENAM. Devant le refus de la direction de l'ENAM de revenir sur sa décision, certains candidats comptent saisir le tribunal administratif.
Et puis Inès, le président de la République, Faustin Archange Touadéra, était hier en Angola.
Oui, une courte visite d'un jour. Selon la présidence, cette visite porte sur la mise en œuvre de la feuille de route conjointe de Luanda. La présidence n'a pas donné plus de précisions sur ce déplacement du chef de l'État. Elle indique sur sa page Facebook que l'Angola a félicité le président centrafricain après sa déclaration de cessez-le-feu sur toute l'étendue du territoire. Le pays appelle les différentes parties à privilégier le dialogue et surtout la paix.
cap sur la vie de Boilly avec cette confusion qui plane encore autour du projet de repos biologique sur le lac Mbali dans l'Ombelapoko.
Le repos biologique est une période de suspension des activités de pêche pour permettre aux poissons de se reproduire au village Mbali. Les 6 groupements de pêcheurs accusent le ministère des Eaux et Forêts de mauvaise gestion des 25 millions de francs CFA alloués pour ce projet. Faux, rétorquent les responsables du département de tutelle qui parlent, eux, d'incompréhension sur ce programme du gouvernement pour soutenir les bénéficiaires de la localité. Igor Diaska, Senapay.
Arrivé ici, au lac Mbali, au village Gbamia, à 12 km de Boilly, axé Bossambélé, la question est presque sur toutes les lèvres. Les pêcheurs rencontrés sur le lac Mbali dénoncent ce qu'ils qualifient de détournement présumé de 25 millions de francs CFA décaissés par les partenaires dans le cadre du projet Repos Biologique. Firmin Laou et Alexis Pali sont respectivement président et membre du groupement des pêcheurs de Gbamia.
Nous demandons aux autorités de respecter leur engagement. Elles nous ont promis 25 millions pour les 6 groupements des pêcheurs de Boilly. Mais finalement, nous n'avons reçu qu'un congélateur de 400 litres et 20 glaceurs. Je suis mécontent car c'est insignifiant.
Dans ce projet de repos biologique, nous avons entendu parler de 25 millions, mais les kits reçus seraient seulement à hauteur de 250 000 francs CFA.
Jean-Charles Kakupandé, président de l'Union des pêcheurs du lac Mbali, s'insurge contre la mise en œuvre de ce projet. Pour lui, le ministère doit au préalable réunir toutes les conditions avant de parler du repos biologique.
Au moment où les partenaires étaient venus pour la remise des kits au ministère, j'étais présent. On entendait parler de 25 millions décaissés au gouvernement. Mais pendant la restitution, nous n'avons reçu aucune enveloppe. Même les filets de pêche qu'ils nous ont remis ne sont pas de bonne qualité.
Le département des eaux et forêts rejette en bloc cette accusation de détournement de 25 millions de francs CFA. Donatien Akite Ndenge, chef de service, parle d'un projet initié par Sebuveral, une institution de la CEMAC pour appuyer les pêcheurs.
Ça, c'est des déformations, des informations. Pour le moment, le repos biologique n'y est pas. Donc, seulement, on leur a donné les kits pour leurs activités de la pêche et non le repos biologique. Donc, pour ce qui est des fonds, nous, on ne sait pas parce que le ministère n'a pas eu un fonds pour accompagner les acteurs de la pêche au niveau de Boilly.
Le gouvernement a mis en place une initiative en 2006 pour ce repos biologique qui, depuis l'or n'est pas encore observé sur le lac Mbali. Igor Jeskin, Senapay de retour de Boilly, Radio Ndekeluka.
À 13h07, vous écoutez le journal de Radio Ndekeluka Inès. On célèbre ce jour la journée mondiale de l'énergie, mais en Centrafrique, l'accès à l'électricité reste encore un problème.
Pourtant, le pays dispose de nombreuses ressources énergétiques. À Bangui, par exemple, dans certains secteurs, les utilisateurs de courant bénéficient parfois que de 2 à 3 heures de l'électricité par jour. Les autres sources d'énergie sont coûteuses. Un reportage de Christois Jordan Badingbe.
Selon plusieurs personnes rencontrées à Bangui, la fourniture d'électricité est très faible par rapport aux besoins. Pour Gilbert, qui travaille dans un atelier de soudure à Lakwanga dans le 2e arrondissement de Bangui, l'électricité est très importante dans ce qu'il fait au quotidien.
L'électricité est très importante pour notre travail de soudure. Sans elle, on ne peut pas gagner de l'argent pour s'occuper de notre famille. Cela fait déjà quelques mois qu'on nous annonçait le rétablissement normal de l'électricité. Mais jusque-là, on ne voit même pas ce projet se réaliser.
Un peu loin, au quartier Sango, se trouve une imprimerie. Deux groupes électrogènes font fonctionner les appareils. Selon Hugues, propriétaire de cette petite entreprise, ces machines peuvent être en marche toute la journée. C'est de grosses dépenses.
Est-ce que courant est là?
Je me demande souvent si nous avons de l'électricité en Centrafrique. Tout le monde est au courant que nous n'avons pas de l'électricité. Les recettes que nous faisons chaque jour ne servent seulement à acheter du carburant pour le groupe. Pour une journée, on peut dépenser jusqu'à 10 000 francs pour acheter le gasoil.
Mon père va passer gasoil par jour, 10 000.
En République centrafricaine, selon une étude du PNUD, moins de 3% de la population a accès à l'électricité, environ 20% de la population, environ 20% dans la capitale Bangui et 1% dans les milieux urbains électrifiés.
Et puis la campagne de vaccination contre la poliomyélite lancée ce matin se déroule timidement à Bangui.
Très peu d'agents de vaccination sont déployés lorsqu'on sillonne les quartiers. Les parents traînent aussi les pas à faire vacciner leurs enfants. Reine Fabienne Ndotiga.
Il est 10h au centre de vaccination de l'hôpital communautaire. Ici, aucun dispositif n'est mis en place pour cette campagne, seulement la vaccination de routine des nouveau-nés. Au centre de santé de Malimaka, dans le 5e arrondissement, la mobilisation est très faible. Peu de parents sont venus faire vacciner leurs enfants. Cette jeune maman que nous avons rencontrée dans ce centre explique que pour elle, cette vaccination est importante.
Je suis venue vacciner ma fille parce que j'ai peur qu'elle puisse tomber malade. En plus, pendant la saison sèche, les enfants tombent souvent malades. Je demande aux parents d'amener leurs enfants à la vaccination pour les protéger.
Toujours à Malimaka, les responsables sanitaires dénoncent un manque de collaboration entre les agents mobiles et les chefs d'établissement scolaire. Docteur Anissemé Dakmbayou, médecin-chef du centre de santé de Malimaka.
Aujourd'hui, c'est la première journée. On a déjà déployé les équipes dans les quartiers. Il y a des enfants qui sont partis dans des églises ou bien dans les écoles maternelles. Et au niveau du centre de santé, nous avons une équipe qui est positionnée là. Malheureusement, il y a certains directeurs d'école qui refusent aux vaccinateurs de vacciner les enfants. Donc, et pourtant, c'est une antigène qui couvre les enfants. Si on se donne ce courage-là d'aller vers eux et qu'ils refusent de faire vacciner les enfants, nous, ça nous met mal à l'aise.
La poliomyélite est une maladie qui paralyse les membres inférieurs. Elle est très dangereuse pour les enfants. Cette campagne de vaccination qui prend fin le 24 octobre se déroule dans les 35 districts sanitaires de la République centrafricaine. Elle cible les enfants de 0 à 5 ans. Elle est couplée avec le déparasitage de l'albendazole et l'administration de la vitamine A.
Bienvenue Bello pour la page sport. Bienvenue, bonjour.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
Basketball, le club Tondema est à Bangui à 3 jours du démarrage du tournoi interclub de Yaoundé au Cameroun.
La phase de poule pour les éliminatoires de la Basketball Africa League démarre en principe mardi prochain. Les champions de Bangui ne sont toujours pas situés s'ils auront ou pas le soutien financier des autorités centrafricaines. Pour le moment, aucune déclaration de la part des autorités en ce qui concerne cette participation de Tondema à cette compétition qui se déroulera à Yaoundé, capitale du Cameroun.
Basketball encore, éliminatoire Coupe du Monde 2023. La Côte d'Ivoire veut organiser la première fenêtre du mois prochain à Abidjan.
Cette volonté de la Fédération de Basketball a été présentée hier au ministre ivoirien des Sports. Les matchs sont prévus du 26 au 28 novembre prochain dans ce groupe C. On retrouve la RCA, la Côte d'Ivoire, la Guinée et l'Angola. Les fauves présélectionnés s'entraînent au Palais des Sports à Bangui. Ils travaillent actuellement avec Wilfried Gongo, Bruno Darlan et Johnny Madoza.
Championnat de la Ligue de Bangui de football, 2 matchs se jouent aujourd'hui au stade Barthélémy Boganda.
En deuxième division actuellement, RC3 reçoit FC SOS, suivi en première division du match Université Football Club de Bangui UFCB, Olympique Raya de Bangui ORB. Hier, la jeunesse sportive de Boeing JSB a écrasé Assez de Gobongo 9 buts à 1 en première division. AS Tempête Mokaf a battu Red Star 3 buts à 0. Red Star est premier avec 15 points, suivi de Castelfoot 13 points. AS Tempête Mokaf totalise 12 points actuellement.
En sport toujours, bienvenue, la Fédération Centrafricaine de Volleyball se dit déçue de la politique sportive du pays.
Les membres du bureau se disent indignés du traitement qui leur est souvent réservé par les autorités quand ils sollicitent les financements pour des compétitions internationales. Le dernier cas, c'est la non-participation des Fauves U21 et le club Zarasclo au tournoi de Brazzaville au Congo pour manque de financement. Pour motiver les joueurs à continuer de travailler, ils leur ont remis une enveloppe mercredi dernier au siège du Senosca. Pour les joueurs, c'est une désolation totale de manquer plusieurs fois à des rendez-vous internationaux. Tony Apiagimé, capitaine de Zarasclo Volleyball.
Nous remercions toujours la fédération de penser à nous parce que les gens ont découragé. Et la fédération fait ce geste-là pour encourager, mais notre problème, ce n'est pas l'enveloppe, quoi. Notre problème, c'est de quitter Bangui, aller à Brazzaville compétir avec nos amis de la sous-région pour vraiment montrer à ces gens que voilà, à Bangui, on pratique le volley indoor. Donc, notre objectif, c'est d'abord compétir le indoor. Comme le gouvernement n'a pas vraiment donné la l'argent, c'est le problème de financement. On n'a pas eu le financement, on est là. Mais la fédération fait ce geste-là pour aider seulement les joueurs, pour ne pas décourager, quoi. On est victime. Moi-même, je fais partie des joueurs qui manquent des compétitions à cause du gouvernement. Souvent, on prépare les compétitions. Au final, on nous dit, voilà, le gouvernement n'a pas soutenu, on est resté à Bangui. Mais pour les autres qui n'ont jamais eu cette occasion-là, c'est pas facile pour eux. Mais on les a dit de continuer. Arriver un moment, ça va arriver. Et je lance un appel à nos autorités vraiment de penser à nous. On est tous des Centrafricains. Dans leur discours, ils ont dit d'encourager les jeunes. Mais pour les jeunes voleurs, là, c'est pas vraiment clair, quoi. Dans d'autres disciplines, le football, le basketball, nos amis, et voyagent. Mais chez nous, c'est toujours le même problème. Le gouvernement doit vraiment penser aux voleurs, quoi.
Full contact kickboxing, tous les maîtres ceintures noires sont convoqués pour reprendre les entraînements de l'équipe nationale.
Le bureau fédéral insiste auprès de tous ces athlètes qui doivent s'entraîner tous les mardis et jeudis à partir de 15h, samedi et dimanche à partir de 9h à la maison des jeunes de 92 logements à Bangui. Ils se préparent pour le championnat d'Afrique de kickboxing prévu en novembre prochain en Guinée équatoriale.
Et c'est la fin de ce journal sur les 100.9 FM Radio Ndeke Loka. Merci à vous de l'avoir écouté. Restez branchés pour la version en langue nationale.